Mark Twain, histoire de l'invalide. J'ai l'air d'un homme de 60 ans et marié, mais cette apparence est due à ma misérable condition et à mes malheurs, car je suis célibataire et n'ai que 41 ans. Vous aurez de la peine à croire que moi, qui ne suis maintenant qu'une ombre, j'étais il y a 2 ans à peine robuste et bien portant, un homme de fer, un athlète. C'est pourtant la vérité vraie, mais plus étrange encore est la façon dont j'ai perdu la santé. Je l'ai perdue en prenant soin d'une caisse de fusil, dans un voyage de 200 miles en chemin de fer, par une nuit d'hiver. Voilà les faits exactement. Je vais vous les raconter. J'habite à Cleveland, dans l'Ohio. Un soir d'hiver, il y a 2 ans, je rentrais chez moi, juste à la nuit tombée, au milieu d'une tempête de neige, et la première chose que j'appris en arrivant, ce fut que mon vieil ami et camarade de collège, John B. Hackett, était mort la veille. Ces dernières paroles avaient été pour exprimer le désir que je prisse le soin de transporter ses restes chez ses pauvres vieux parents dans le Wisconsin. Je fus tout à fait bouleversé et peiné. Mais il n'y avait pas de temps à perdre en émotion. Je devais partir aussitôt. Je pris avec moi l'adresse, le pasteur Levi Hackett, Bethlehem, Wisconsin 9, et filai à travers les tourbillons de neige vers la station. Là, je trouvai la longue caisse de sapin qu'on m'avait décrite. Je clouai la carte sur la caisse, m'assurai qu'on la portait sur le train, et allai ensuite au buffet chercher des sandwichs et des cigares. Quand je rentrai dans la salle d'attente, mon cercueil s'y trouvait de nouveau, et à côté un jeune homme regardant autour de lui, avec dans la main une carte, un marteau et des clous. Je fus tout stupéfait. Il commença à clouer sa carte, et je courus vers le train dans un état d'âme extraordinaire pour demander des explications. Mais non, ma caisse était là, bien tranquille, dans le wagon. Elle n'avait pas bougé. La vérité était que, sans que je pusse le soupçonner, une confusion étrange s'était opérée. Je venais de prendre avec moi une caisse de fusil que ce jeune homme avait déposée dans la salle à la destination d'une compagnie de carabiniers à Peoria, dans l'Ohio, et lui avait pris mon cercueil. Le conducteur cria « En voiture !» Je montai dans le train et dans le fourgon, et je m'assis confortablement sur des ballots. Le conducteur était là, tout à son ouvrage, un brave homme de 50 ans, avec une figure simple, honnête, joviale. Son allure générale était alerte et bienveillante. Comme le train se mettait en marche, un étranger sauta dans le wagon et déposa sur le bout de mon cercueil, enfin je veux dire ma caisse de fusil, un paquet de fromage de Limburger de dimension et d'odeur respectable. C'est-à-dire que je sais maintenant que c'était des fromages de Limburger, mais à ce moment-là je n'avais de ma vie entendu parler d'objets de cette nature, et j'étais dans la plus profonde ignorance de ses qualités. Nous allions à grande vitesse à travers la nuit désolée. La tempête faisait rage autour de nous. Une tristesse profonde m'envahit. Mon cœur était tout découragé. Le conducteur fit 2 ou 3 remarques pleines d'à-propos sur la tempête et la saison polaire que nous traversions. Puis il tira hermétiquement les portes sur leurs rails, mit les verrous, ferma la fenêtre avec soin. Ensuite, il s'occupa des bagages. Ici, là, un peu plus loin, en mettant les paquets en place, fredonnant tout le temps d'un air satisfait la chanson « Doux souvenir » à voix basse avec des bémols. Cependant, je commençais à sentir une odeur désagréable et pénétrante qui montait dans l'air glacé. Cela m'affecta encore plus car j'attribuais cette odeur à mon pauvre ami défunt. Il y avait quelque chose de lugubre dans le fait de se rappeler à mon souvenir de cette émouvante façon. J'eus de la peine à retenir mes pleurs. En outre, je m'effrayais au sujet du vieux conducteur. Il était à craindre qu'il sentît l'odeur. Cependant, il continuait à fredonner tranquillement, sans rien laisser paraître. Je bénis le ciel. Mais je n'en étais pas moins à l'aise, et mon malaise croissait à chaque minute, car à chaque minute, l'odeur devenait plus forte et plus insupportable. Quand le conducteur eut terminé ses arrangements, il prit du bois et se mit à allumer dans son poêle un feu d'enfer. Cela me désola plus que je ne saurais dire. C'était une erreur lamentable. J'étais sûr que l'effet serait désastreux pour mon pauvre ami défunt. Thompson, le conducteur s'appelait Thompson, comme je l'appris dans le courant de la nuit, se mit à fureter dans le wagon, ramassant tous les bouts de combustible qu'il pouvait trouver, et faisant cette remarque intéressante que peu importait la température extérieure, il voulait que nous fussions confortables à l'intérieur. Je ne dis rien, mais je pensais en moi-même qu'il ne prenait pas le bon moyen. Pendant ce temps, il continuait à fredonner. Et pendant ce temps aussi, le poêle devenait plus chaud et plus chaud aussi que l'atmosphère du wagon. Je me sentais pâlir et je commençais à avoir mal au cœur. Mais je ne dis rien et souffris en silence. Bientôt, je m'aperçus que le doux souvenir s'affaiblissait peu à peu. Enfin, il cessa tout à fait. Il y eut un silence effrayant. Après un moment, Thompson dit « ce ne doit pas être avec du cinnamome que j'ai bourré ce poêle. » Il respira deux ou trois fois, puis se dirigea vers la caisse de fusil, s'arrêta un moment près de la boîte de Limburger et s'en revint s'asseoir à côté de moi, l'air très impressionné. Après quelques rêveries, il me dit en désignant la caisse « Un de vos amis ?»« Oui, » dis-je avec un soupir. « Il a l'air rudement mûr, n'est-ce pas ?» Nous gardâmes le silence deux ou trois minutes absorbés dans nos réflexions. Puis Thompson dit d'une voix basse et craintive « Des fois, on ne sait pas sûrement s'ils sont bien morts. Ils paraissent morts, n'est-ce pas? Mais le corps est tiède, les articulations souples et ainsi. Bien que pensant qu'ils sont morts, vous n'avez pas une certitude absolue. J'en ai transporté comme cela. Oh, c'est tout à fait effrayant parce que vous ne savez pas à quel moment ils vont se lever et vous regarder en face. » Après un autre silence, levant le coude dans la direction du cercueil, « Oh, mais pour lui, il n'y a pas de danger. Je parierais bien qu'il est mort. » Nous demeurâmes quelque temps sans plus parler, méditant à écouter le vent et le bruit du train. Thompson dit alors d'un air animé, « Bah, nous devons tous partir un jour, il n'y a rien à y faire. L'homme né de la femme est de peu de jours sur la terre et « sa fin est prompte, dit l'Écriture. Vous avez beau réfléchir là-dessus. C'est terriblement solennel et curieux. Personne n'y changera rien. Tout un chacun doit y passer. Un jour, vous êtes vaillant et fort. » Ici, il se leva, brisa un carreau, et mit son nez dehors une ou deux minutes, puis vint se rasseoir, tandis que je me levais et allais mettre mon nez à la même place, et nous alternâmes ainsi tout en causant. Et le lendemain, vous êtes fauché comme l'herbe, et les endroits qui vous ont connu ne vous connaissent plus, comme dit l'Écriture. C'est tout à fait terriblement solennel et curieux. Mais nous devons tous partir un jour ou l'autre, on n'y peut rien. Il y eut une autre longue pause. « De quoi est-il mort ?»« Ah, je l'ignore. Y a-t-il longtemps qu'il est mort? Il me parut judicieux d'élargir les faits pour rendre plus explicable ce qui se passait. Oh, 2 ou 3 jours. Mais ce fut en pure perte. Thompson eut un regard incrédule qui signifiait clairement, vous voulez dire 2 ou 3 ans. Et il continua, affectant placidement d'ignorer ce que je venais d'établir, insistant longuement sur les inconvénients des funérailles trop tardives. Il alla ensuite vers la caisse, s'arrêta un moment, et s'en revint au petit trot vers la fenêtre en observant. Oh, on aurait mieux fait, tout examiné, de l'enterrer l'an dernier. Il s'assit et ensevelit sa face dans un grand mouchoir rouge et se mit à se remuer et à se balancer comme quelqu'un qui fait tous ses efforts pour supporter quelque chose d'intolérable. Pendant ce temps, l'odeur, si ce mot d'odeur est suffisant, devenait suffocante, presque à mourir. La face de Thompson était livide. La mienne, n'avait plus aucune sorte de couleur. Cependant, Thompson posa son front sur sa main gauche et son coude gauche sur son genou et fit le geste de remuer son mouchoir avec l'autre main vers le cercueil et dit: Oh, j'en ai transporté des tas, quelques-uns considérablement avancés. Mais, Seigneur, il les dépasse tous et sans effort. Capitaine, le plus avancé était de l'héliotrope auprès de lui. Bientôt, il devint évident qu'il fallait prendre un parti. Je suggérais des cigares. Thompson approuva l'idée. Il dit: Oh, peut-être que cela va le modifier un peu. Nous tirâmes énergiquement sur nos cigares pendant un moment et essayâmes de nous persuader que cela allait mieux. Mais inutile. Au bout d'un moment, sans nous être consultés, nous laissâmes ensemble tomber nos cigares de nos doigts défaillants. Thompson ajouta: Non, capitaine, cela ne le modifie pas du tout. Au contraire, l'odeur du tabac le rempire et semble exciter son émulation. Alors que pensez-vous qu'on puisse faire? Je n'avais aucune idée. J'étais en train d'opérer des mouvements de déglutition et ne me souciais pas de parler. Thompson se mit à maugréer d'une voix morne et par intervalles sur les malheureuses circonstances de cette nuit. Il s'adressait à mon pauvre ami, lui donnant divers titres, tantôt militaires, tantôt civils, et je remarquai qu'à mesure que croissait l'impression produite par le cadavre, Thompson lui accordait une promotion correspondante et un titre supérieur. À la fin, il dit: J'ai une idée. Si nous prenions le cercueil et si nous poussions le colonel vers l'autre extrémité du wagon, à une dizaine de pieds de nous, par exemple, il n'aurait pas autant d'influence, ne pensez-vous pas? Je trouvais le plan excellent. Nous prîmes donc une bonne gorgée d'air au carreau brisé pour en avoir jusqu'au bout. Puis nous nous penchâmes sur le fromage mortel et saisîmes la caisse en des sous, et Thompson balança « Tout est prêt !» Et nous partîmes avec toute notre énergie. Mais Thompson glissa et s'étala le nez sur le fromage. Il en perdit la respiration. Je le vis haleter convulsivement, puis se précipiter vers la porte qu'il secoua, cherchant de l'air et me disant d'une voix rauque: Vite, vite, laissez-moi passer, je meurs, laissez-moi passer. Une fois sur la plateforme, au vent froid, je m'assis et lui tins la tête. Il reprit ses sens. Bientôt il dit: Croyez-vous que nous ayons porté loin le général? Oh, je dis que non, nous l'avions à peine vu remuer. Bon, voilà une idée abandonnée, il nous faut trouver autre chose. Il se trouva bien où il est, je suppose. Si c'est sa façon de penser, et s'il a mis dans sa tête de ne pas être dérangé, il en viendra à ses fins. Il vaut mieux le laisser tranquille aussi longtemps qu'il voudra. Il a tous les atouts dans son jeu. Et alors il tombe sous l'essence qu'à vouloir contrarier ses idées. On sera toujours battu. Nous ne pouvions cependant rester dehors dans cette tempête furieuse. Nous serions morts de froid. Il fallut donc rentrer et fermer la porte et souffrir et nous succéder à la vitre brisée de la fenêtre. Cependant, comme nous venions de quitter une station où nous avions eu un court arrêt, Thompson entra tout joyeux en s'écriant « Tout va bien, je crois que nous tenons le Commodore cette fois. Il me semble que j'ai mis la main sur l'arme qu'il faut pour se battre. » C'était de l'acide phénique. Il en avait un bidon. Il en répandit partout autour de nous. Il inonda la caisse à fusil, le fromage et tout. Puis nous nous assîmes pleins d'espoir. Ce ne fut pas long. Les deux parfums s'amalgamèrent, et alors, oui, rapidement nous précipitâmes-nous vers la porte. Une fois dehors, Thompson s'essuya le front avec son mouchoir et dit d'une voix défaillante « Oh, tout est inutile, nous ne pouvons rien contre lui. Il se sert de tout ce dont nous essayons pour le modifier, lui donne son parfum et nous le renvoie. Capitaine, il est en foi plus terrible maintenant qu'au commencement. J'ai jamais vu personne s'échauffer ainsi à la besogne et y mettre ainsi un infernal intérêt. Non, monsieur, jamais, depuis que je voyage sur la ligne. Et j'en ai transporté plus d'un, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Nous rentrâmes avant d'être tout à fait gelés. Mais on ne pouvait y tenir. Dès ce moment, nous ne fîmes que courir du dedans au dehors et réciproquement, alternativement gelés, chauffés, suffoqués. Au bout d'une heure vint une autre station. Au départ, Thompson entra avec un sac et dit « Capitaine, je vais essayer autre chose. C'est la dernière tentative. Si nous n'en venons pas à bout cette fois, nous n'avons plus qu'à jeter l'éponge et à nous retirer de la lutte. Essayons. » Il avait apporté un paquet de plumes de volaille, des pommes sèches, des feuilles de tabac, des chiffons, des vieux souliers, du soufre, de la safoétida et un tas d'objets. Il les empila sur une plaque de fer au milieu du wagon et y mit le feu. Quand le tout fut bien allumé, je ne pus comprendre comment le cadavre lui-même pouvait supporter cette odeur. Tout ce que nous avions senti jusque-là par comparaison était une poésie. Mais sachez que le parfum primitif persistait aussi énergique qu'avant, bien mieux. Les autres odeurs semblaient lui donner du ton. Je ne fis pas ces réflexions sur place, je n'en eus pas le temps, mais sur la plateforme. En faisant irruption dehors, Thompson tomba suffoqué. Quand nous revécûmes, il dit d'une voix mourante « Oh, il nous faut rester dehors, capitaine, il le faut. Il n'y a pas autre chose à faire. Le gouverneur veut voyager seul. C'est son idée et nous ne pouvons aller à rencontre. » Puis il ajouta, « Eh, savez-vous, nous sommes empoisonnés. C'est notre dernier voyage. Vous pouvez en faire votre deuil. Le résultat de tout cela sera une fièvre typhoïde, je la sens venir. Oui, monsieur, nous sommes élus aussi vrai que je suis né. » On nous retira de la plateforme une heure après, à la station suivante, glacée et insensible. J'en eus une fièvre violente et ne sus plus rien pendant 3 semaines. J'appris alors que j'avais passé cette nuit effroyable en compagnie d'une inoffensive caisse de fusil et d'un lot de fromage sans malice aucune. Mais La vérité arriva trop tard pour me sauver. L'imagination avait fait son œuvre, et ma constitution est ruinée pour toujours. Ni les Bermudes, ni aucune autre terre ne pourront me rendre la santé. C'est mon dernier voyage. Je retourne à mon foyer pour mourir.